Et oui, toujours sur cette exposition au musée Pompidou, non, oui, c'est ça, Pompidou, de Metz. Alors effectivement, il y a le dessin d'une part, mais il y a, je crois, qui contrebalance un peu la virilité du trait. Il y a une délicatesse dans la touche de peinture, dans les couleurs, dans ces choses-là, qui est vraiment assez exceptionnelle et qui adoucit un peu cette masculinité du trait. Et aussi, une chose assez extraordinaire, de mon point de vue, bien que je ne sois pas aussi passionné que ma camarade pour cet artiste, il y a une chose que j'ai remarquée qui m'a beaucoup impressionné, c'est la manière de. Enfin, le traitement de tapisserie, de couverture, etc., avec des motifs floraux, etc., etc., des couleurs surtout, des compositions de couleurs extraordinaires, qui accompagnent certains nus. Voilà.
Ah ouais, c'est impressionnant, elle travaille autant effectivement tout le décor et les tapisseries que le modèle, quoi.
Oui. Et il y en a une particulièrement où la tapisserie, il y a au fond, enfin dans cette tapisserie, il y a un bleu outre-mer, mais extraordinaire. Je ne sais pas si ça existe encore des bleus outre-mer comme ça. Voilà. C'est vraiment la marque de Valadon. Bon, il y a le trait, évidemment, on ne peut pas y penser, on ne peut pas passer à côté. Mais il y a aussi cette façon de peindre la couleur avec, je vous dis, ces petites touches qui font des dégradés, qui scintillent, etc. Et dans quelques-uns, pas dans toutes ces peintures, mais dans quelques-unes de ces peintures de nus, allongées sur des tapis ou sur des sofas, etc., c'est ce chatoiement de tapisserie. Vraiment un boulot, je pense, de dessin aussi peu commun. Voilà. Et moi, c'est ce qui m'a marqué surtout, c'est ce jaillissement de couleurs des tapisseries sur lesquelles reposaient les nudités. Voilà. J'étais plus subjugué par les couleurs, les formes des tapisseries que par les personnages.
Oui, alors en fait, effectivement, cette exposition permet de voir vraiment toutes les facettes de son art. Et là, on a découvert que c'était aussi, elle savait faire du paysage et que
Ah
ces
oui,
paysages
ça
étaient
oui.
aussi
Tout
remarquables,
à
quoi.
fait.
Même si on n'a plus que 4-5 qui sont exposés, on a découvert cette facette-là de son art. Il y a aussi, alors il y a beaucoup d'autoportraits. Où elle se représente s'embellir, en fait.
Bah
Elle a
oui.
toujours les traits un peu durs, même.
Oui.
Sauf presque ce dernier autoportrait qui est sur le catalogue, où là, elle est âgée. Et par contre, elle se fait une poitrine qui reste encore assez jeune. Mais par contre, son visage reste. Elle a souvent ce visage, oui, ce visage grave, en fait,
Oui, tout à fait.
dans ses peintures.
Ouais.
Alors que c'était quand même une femme qui, malgré la dureté de la vie, savait quand même s'amuser. Mais c'est pas de cette manière-là qu'elle se représente. Il y a des scènes domestiques et il y a aussi ce qu'elle a représenté, c'est la nudité masculine. Et ça, c'est vraiment une des premières femmes à avoir représenté un homme nu. Il y a son tableau qui s'appelle Adam et Ève, c'est un tableau 1909 où elle se représente avec André Uther. Ils sont tous les deux nus, donc avec derrière effectivement un paysage, un arbre, ce pommier. Et lui, en fait, au départ, était complètement nu. Et ça n'a pas plu. Donc après, quelques années après, elle a été obligée de refaire une feuille de vigne devant le sexe
C'est
de son
tellement
mari, quoi.
ridicule,
Voilà,
pardon.
c'était rajouté tardivement, probablement vers 1920, quand il y a eu le salon d'automne qui ne pouvait supporter de voir qu'on expose un homme complètement nu de face.
Bah, c'est vrai qu'un homme, c'est pas Jojo, hein.
Bon,
Alors
enfin bon,
là, je peux
c'était pas la raison
comprendre.
officielle, hein. Voilà. Et elle a aussi représenté donc André Uther dans ce lancement de filet. Toi, c'est une toile que t'aimes pas
Pas
beaucoup,
du
qui
tout.
appartient à Beaubourg d'ailleurs, Beaubourg à Paris, qui a été mise là à Metz. Et donc c'est ce lancement de filet où il est représenté à trois moments différents, donc nu et de dos, avec un corps quand même très très ferme, très musclé, qui est en train de lancer ce filet de pêche. Et ça, ils mettent à côté un tableau de Basie qui est un peu dans le même esprit. Donc on peut imaginer peut-être qu'elle a eu connaissance aussi de ce tableau-là et qu'elle s'en est inspirée. En tout cas, c'est une femme qui a osé toute sa vie.
Aussi le grand format, parce que c'est un tableau immense, quoi. Je ne sais plus comment il fait, mais il est vraiment très très grand. Mmh. Mais en même temps, c'est un peu ridicule, parce que pour cacher la verge d'un des pêcheurs, celui du milieu, elle met devant son anatomie intime, si on peut dire ça comme ça, elle met des cordes de filet, quoi. C'est un peu grossier.
Ah oui,
quoi.
Dans celui-ci,
ouais,
oui.
Ouais. Non, puis je trouve que... Moi, j'aime pas les corps masculins, de toute façon, ni en peinture, ni en sculpture. Je pense que le corps féminin est 1 million de fois plus agréable à regarder, que les modelés sont... Parce que dans le corps masculin, il y a aucune douceur, c'est brutal, c'est des angles, c'est du muscle, c'est etc. Moi, ça me donne une sorte de nausée, quoi. Tandis que dans les corps féminins, d'ailleurs, il y en avait un. C'était à Pompidou. Ce corps féminin, je t'ai demandé de photographier.
Non, cette sculpture.
Oui.
Non, c'était au petit musée après qu'on a
visité. Au musée de la... Comment tu dis déjà,
la Cour d'Or.
La Cour d'Or, oui. Non, il y a incontestablement dans le corps féminin une harmonie qui n'existe pas du tout dans le corps masculin, quoi. C'est brutos, alors que le corps féminin, c'est...
Mais là, bon, ce qu'on peut souligner, c'est le fait qu'elle soit la première à oser, justement.
Oui, non,
après,
mais...
voilà, c'est... Je pense qu'elle, elle trouvait que ce corps était
beau. Ah oui,
beau,
sûrement. Enfin, oui, bah oui, voilà.
Et aussi, elle a fait ce qu'on n'avait pas vu non plus, c'est des natures mortes. Il y a tout un panneau de fleurs qu'on ne connaissait pas du tout, cet aspect-là de son
travail. Non, mais elle a touché un peu à tous les sujets dans sa peinture. Elle n'a pas hésité à se frotter à toutes les difficultés, parce que les natures mortes, c'est pas si facile que ça. Surtout s'il s'agit de fleurs, s'il s'agit de jambon, de lapin, etc. Là, c'est assez fastoche, mais les fleurs, par contre, moi, ça me file une trouille pas possible, quoi. Mmh.
Donc, c'est quand même une exposition qui mérite le déplacement. Hein, pour aller à Metz, c'est facile, on prend le train, 1h30 de train depuis Gare de l'Est. Le centre Pompidou-Metz, c'est à 2 minutes à pied de la gare. Par contre, effectivement, on a été un peu étonnés par la froideur des lieux. C'est très blanc, ça manque de vie, ça manque d'âme, quoi.
Ah oui, complètement. Et alors, l'extérieur, l'architecture, je veux dire... Alors, ça pourrait peut-être passer, mais ils ont foutu un espèce de cube, comment tu appelles ça, un climatiseur géant qui sort de la façade. Alors, tout est en courbe, etc. Il y a un travail de charpente magnifique. C'est vraiment... On a eu l'histoire quand on a visité cet autre musée des Beaux-Arts c'est pas le musée des Beaux-Arts, mais cet autre musée de Metz qui nous a, on a rencontré deux médiateurs,
ouais. Oui. Lionel et Sophia.
Voilà.
Et en fait, dans les musées de province, ce qu'on s'aperçoit, c'est que souvent, les gardiens sont beaucoup plus que des gardiens. On a eu la même expérience à Gravelines, la même rencontre où, en fait, ils peuvent se passionner pour leur métier et du coup, raconter un petit peu dans les salles l'histoire des œuvres.
Absolument. Et alors, ils nous ont expliqué, donc, à propos de Pompidou, Pompidou qui reçoit des dizaines de milliers de visiteurs, 100 000, 150 000, je ne sais plus combien, 200 000 visiteurs par an, alors que ce musée, qui de mon point de vue est mille fois plus intéressant, non seulement dans la présentation des œuvres, mais aussi dans le lieu, quoi. C'est un lieu en bois, c'est un lieu vraiment où chaleureux, contrairement à la clinique Pompidou. Et ils nous expliquaient qu'en fait, il y a 10-15 ans, quand ils ont construit ce musée, c'était des champs. Voilà.
Oui,
ils ont construit un quartier tout neuf, mais qui est nul à chier, comme tous les quartiers neufs que les architectes d'aujourd'hui, pour lesquels les architectes d'aujourd'hui délirent, quoi. Voilà. C'est-à-dire, c'est des grands buildings, des cubes ou des parallèles et dans béton et en verre.
C'était le ministre de la Culture de l'époque, c'était Ayagon, qui est originaire du coin, qui a voulu sûrement revaloriser un peu sa ville, enfin redynamiser la ville. Et effectivement, donc après ce musée, on a traversé un peu une zone où il ne se passe pas grand-chose, pour rejoindre le centre-ville de Metz, où là, il y a quand même une ville avec des grandes places, des façades, des belles façades médiévales, enfin un peu ocre, avec, qui relèvent de l'occupation espagnole, n'est-ce pas ? Et donc la ville de Metz, après, bon, était un peu endormie, on va dire. Bon, le temps n'était pas très bon non plus. Mais voilà, en tout cas, il y a une ville, après, une vraie ville. Et donc ce musée de la cour d'or qui est un musée donc qui regroupe des œuvres qui vont de l'époque gallo-romaine jusqu'à aujourd'hui avec un étage consacré aux beaux-arts et aux artistes principalement de Moselle et de Metz. Et là, on a vu des choses effectivement magnifiques, quoi. C'est avec moi, j'avais jamais vu ça. Ce sont des plafonds qui ont été peints avec tout un bestiaire médiéval. Et là, je suis restée en admiration devant ces morceaux de plafond qu'on pouvait admirer, enfin, ou ces poutres avec dessinées ainsi, quoi.
Oui, dessinées. Enfin, en couleur, peint en couleur. Il y avait tout un plafond avec des poutres. C'était des poutres qui enfin, au 12e, 13e siècle, 10e siècle, 11e siècle, enfin, dans ces eaux-là, voilà, les poutres étaient surtout dans les châteaux, dans les demeures royales, seigneuriales plutôt, étaient décorées avec des fleurs, avec des animaux fantastiques, etc., etc., avec aussi les drapeaux, les écussons, enfin, des seigneurs du coin. Non, c'est quelque chose de vraiment. Moi, j'en ai vu. J'en avais déjà vu dans le sud, dans un château dans le sud, déjà des poutres de cette peinte comme ça. Mais là, c'est vraiment un festival. Ils ont retrouvé et remis en valeur des plafonds en bois. Avec tout un bestiaire fantastique médiéval, c'est quelque chose de très étonnant.
Ouais, d'ailleurs, il y avait un livre à la fin dans la librairie qu'on n'a pas acheté, maintenant on regrette un petit peu, parce qu'il y avait vraiment l'ensemble des plafonds. Bah, ouais. Et je crois qu'ils n'ont même pas exposé tous les plafonds qu'ils ont dans leur réserve. Dit, donc, oui. Ouais. Et sinon, bah, comme ça couvre toutes ces époques-là, il y a aussi énormément de bas-reliefs, de sculptures, de pierres sculptées. Et c'est vraiment un musée très... Et nous, on a beaucoup aimé aussi, dans cette vitrine où il y avait les poutres dessinées, il y a une petite collection de sifflets en terre qui représentent une amazone, qui représentent un poisson ou des petits animaux qui sont absolument adorables, quoi.
Tout à fait. Non, comme le relevait... un médiateur, comme les appelle ma camarade, le médiateur
Lionel,
il était un petit peu quand même un petit peu triste, ouais, c'est peut-être le mot qu'il faut mettre sur son attitude, parce que il y a ce musée magnifique dans l'ancien Metz et il y a ce truc de Pompidou là. Pour lesquels la commune de Metz verse des choses de l'ordre de 10 millions d'euros par an pour l'entretien, pour etc., je ne sais pas quoi, pour la publicité, etc. Et pour ce musée de la ville de Metz, enfin, qui voilà, qui, je répète, qui est quelque chose d'assez étonnant, pas de publicité, il n'y a rien qui indique le musée, pratiquement, etc. Et ils ont combien? Je crois moins de 100 000 visiteurs par an.
Ah oui, c'est beaucoup, beaucoup moins.
Beaucoup moins. Alors, il était quand même un petit peu amer de voir que la différence de traitement entre les deux lieux, les deux lieux muséaux, quoi. Et moi, on peut comprendre parce que il y a cet engouement. Enfin, Pompidou, il y a cet engouement pour le conceptuel, je suis sûr, parce que c'est un musée qui doit surtout proposer des artistes contemporains. Là, ils ont dû faire le conservateur a dû faire un croche-pied pour exposer Valadon, quoi. Je pense pas que ça soit leur truc.
En même temps, ce qui est drôle, c'est que Valadon, finalement, c'est le même Pompidou Paris qui a le plus d'œuvres de Valadon, alors qu'effectivement, ça devrait être au musée d'Orsay.
Tout à fait.
Et c'est Pompidou qui est riche.
Pompidou,
de...
il a pas d'œuvres du 19e.
Ouais. Donc, ouais. Et c'est vrai que nous, comme on avait toute une journée, on a pris un train à 8h15, donc 10h moins le quart, on arrive pour l'ouverture du Pompidou. Après, on repartait vers 5h, et là, on a vraiment tout le temps d'aller d'aller déjeuner en ville et de faire ce musée de la cour, cour d'or. Donc c'est vraiment une très belle journée. Je pense que les gens qui ne vont pas au deuxième musée, en fait, peut-être arrivent par car. Voilà. Et donc repartent après directement ailleurs dans un tour.
Alors que nous avons fait 10 km dans Metz, quand même. Parce qu'avec mes camarades, il n'y a pas de question. Et là-bas, il n'y a pas de transport. Ah si, il y avait des petites navettes gratuites, etc. Mais non, c'est les badaf, quoi. Il est sur la terre africaine, un bataillon dans les soldats, voilà, c'était nous.
Ouais, mais en tout cas, voilà, c'est une belle journée, en fait, artistique. Et on vous conseille, l'exposition Valadon est jusqu'au 11 septembre. Après, elle ne sera pas proposée à Paris, elle va partir à Nantes et à Barcelone. Donc, si vous êtes dans la région parisienne, c'est une très bonne journée d'aller visiter cette exposition et de passer après au musée de la Cour d'Or.
Et alors, si vous voulez vous restaurer, il y a une place, c'est la place Saint-Louis, avec ses bâtiments extraordinaires là. Et là, alors il n'y avait personne ce jour où on y est allé, parce qu'il pleuvait, parce que ceci, parce que, mais on a vu des terrasses géantes, je n'en ai jamais vu les comme ça. Ils peuvent accueillir des centaines de gens pour se restaurer. Là il n'y avait personne, mais bon, voilà, c'est impressionnant. Et je pense que la cuisine, là il y a, bon, il y a la quiche Lorraine. Et voilà. Non, mais il y a certainement qu'il doit y avoir de la bonne cuisine, parce que pour avoir des... Mais je pense aussi que l'Allemagne, qui est à 40 km à 40 km de Metz, doit... il doit y avoir des touristes allemands en surtourisme.
C'est possible. Ah, c'était Montmartre, Georges Chelon.